Donc, on vient de chanter à Dieu soit la gloire. Et en Romains 11, 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Bon, nos cantiques aussi, vous le savez, sont nommés, ils ont pour titre « À toi la gloire ». Et nous disons souvent dans nos prières régulièrement que Dieu soit glorifié à travers nous, que Dieu soit loué, que cela chaque jour. Mais sommes-nous réellement sincères dans ces déclarations? Ou si je peux poser cette question autrement, sommes-nous vraiment prêts à faire face à ce que Dieu permet? Et sommes-nous vraiment prêts à mettre notre confort de côté pour que Dieu soit exalté, élevé et glorifié? Ou est-ce que quand on dit à Dieu soit la gloire, seulement quand il répond à mes prières comme moi je veux? L'auteur de ce chant s'appelle Fanny Crosby. Elle a écrit tellement de cantiques au cours de sa vie qu'il est difficile de donner un nombre exact de combien de cantiques elle a écrites. Elle a écrit. Beaucoup disent qu'elle a écrit entre 6 et 9 000 cantiques. Et donc la grande majorité sont d'accord pour simplifier la chose en simplement dire qu'elle a écrit plus de 8 000 cantiques au cours de sa vie. Et cette femme est née dans l'État de New York dans les années 1820. Et ce chant en particulier, à Dieu soit la gloire, a été écrit dans l'année 1870. Et en plus des plus de 8 000 cantiques qu'elle a écrits, Fanny a publié 4 volumes de poèmes et de vers. Le premier étant publié en 1844, intitulé « La fille aveugle ». Fanny a eu des problèmes avec ses yeux dès sa naissance. Et après avoir reçu un mauvais traitement, elle est devenue aveugle à l'âge de 6 semaines. Mais Fanny n'en a jamais voulu, ni à son docteur, ni à Dieu ou à ses parents. À l'exemple de Joseph, dans la Bible, quand il a été vendu par ses frères, quand il retrouva ses frères les années plus tard en Égypte, il leur dit en Genèse 50, versets 19 et 20, « Soyez sans crainte, car qui suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Et Fanny Crosby avait une attitude très similaire par rapport au fait qu'elle ait vécu sa vie entière dans l'obscurité. Fanny déclare, par exemple, « Si j'avais le choix, je choisirais de rester aveugle. De cette façon, quand je meurs, le premier visage que je verrai sera celui de mon Sauveur. » Ou encore, elle a dit à d'autres moments, « Je suis béni par la providence de Dieu d'avoir été aveugle toute ma vie. Si on me donnait le choix de retrouver ma vue demain, je refuserais. Je n'aurais peut-être pas pu écrire des poèmes et des chants à la gloire de Dieu si je pouvais voir toutes les choses que j'aurais considérées comme belles à mes yeux. » Une dernière citation par rapport à cela, qu'elle a fait à plusieurs reprises, où elle disait souvent, « Il ne suffit pas d'avoir un chant sur nos lèvres, il faut avoir un chant dans notre cœur. » Et on peut chanter, comme on vient de le faire, « À Dieu soit la gloire !» Mais il faut que ce soit notre vie qui reflète cette vérité. Pas juste nos lèvres pendant qu'on le chante. Fanny Crosby n'a pas eu une vie facile. Pas seulement à cause du fait qu'elle ait été aveugle dès l'âge de 6 semaines. Son père est également décédé alors qu'elle n'avait qu'un an. À l'âge de 15 ans, elle fut envoyée à une école pour aveugles, en internat. Elle était une étudiante qui montra beaucoup de talent et de capacité. Elle est d'ailleurs devenue l'un de leurs professeurs où elle a enseigné pendant plus de 11 ans après. Mais malgré le fait d'avoir reçu beaucoup d'enseignements bibliques, et même mémoriser énormément de passages, de versets bibliques, parce qu'elle avait un don particulier pour cela, et sa mère, régulièrement, quotidiennement, l'aidait à mémoriser les versets, Fanny ne s'est convertie qu'à l'âge de 31 ans quand même. Et depuis ce moment, depuis cette conversion, parce qu'elle écrivait déjà des poèmes, elle écrivait des chants pour le monde, mais depuis ce moment, tous ces poèmes étaient dirigés vers Dieu et plus spécifiquement pour rendre gloire à Dieu. Et donc tous les plus de 8000 cantiques, elle les a écrites depuis ses 31 ans et après. Il disait, c'était pas inhabituel pour elle d'écrire 3 ou 4 chants dans une journée. Ça lui venait avec une telle facilité. Et comme on peut l'imaginer, avec plus de 8000 cantiques, elle a eu également beaucoup de compositeurs à mettre leur musique à ses poèmes. Tous les grands noms ont contribué aux cantiques de Fanny Crosby. Pour notre chant d'aujourd'hui, c'est William Downe, D-O-A-N-E, Doane, pour ce chant. Mais d'autres, qui étaient bien connus, comme Harry Sankey, qui faisait beaucoup pour D.L. Moody, etc. Mais bien d'autres. Et on a déjà mentionné dans les semaines passées William Bradbury. Et Fanny commença à écrire des poèmes pour qu'il les mette en musique pour les écoles de dimanche. Et d'ailleurs, le tout premier chant qu'elle a écrit pour lui, pour l'une de ses écoles de dimanche, était également le chant qu'il a été choisi de chanter lors de son enterrement à William quand il était enterré en 1868. Je n'ai pas le temps de tout dire sur la vie de Fanny Crosby. Il y a beaucoup trop de choses. Si vous avez le temps, vous pouvez rechercher des biographies. Il y en a plusieurs sur elle. Mais suffit-il de dire que quand elle-même a chanté de tels chants comme « À toi la gloire » ou « À Dieu soit la gloire », elle le pensait vraiment, parce qu'elle le vivait vraiment. Et ce n'est pas juste « Ah, j'ai une facilité d'écrire des choses que je ne pense pas ». Ce n'est pas parce que les poèmes lui venaient facilement, que les vérités, ces choses qu'elle avait sur le cœur lui venaient avec une facilité déconcertante pour certains, que ce ne venait pas du cœur quand même, que ce n'était pas des choses qu'elle vivait au jour le jour. Le fait d'avoir perdu sa vue à l'âge de 6 semaines, d'avoir perdu son père quand elle avait 1 an, et de devoir se soutenir elle-même par ses poèmes et par ses chants, elle trouva une vraie consolation, une vraie force et une vraie satisfaction. Et tout le monde qui la connaissait dirait qu'elle avait une vraie joie de vivre dans son Seigneur et non dans les choses physiques et matérielles. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce mot « gloire » revient 168 fois dans 155 versets, rien que dans le Nouveau Testament. Rien que dans le Nouveau Testament. Et cette idée de donner gloire parle de rendre honneur, parce que le mot, si je me rappelle bien maintenant, c'est le mot en grec, c'est amomos, qui veut dire, oui, rendre honneur, dignité, d'élever, de louer. Et vous savez, on ne peut pas parler en mal et donner gloire en même temps envers cette personne. On ne peut pas douter de la personne, remettre en question ce qui l'a permis, par exemple, et donner gloire en même temps. On ne peut pas faire de nos paroles et de nos pensées comme étant plus important et donner gloire en même temps à Dieu. Comme je l'ai dit, il y a 155 versets, rien que dans le Nouveau Testament, qui utilisent ce mot gloire. Alors, ce n'était pas facile d'en choisir un, mais je crois pouvoir dire que le Seigneur m'a dirigé vers celui qu'on va voir ce matin en Jude, chapitre 1, parce qu'il n'y en a qu'un, versets 24 et 25, les deux derniers versets pour terminer cette épître de Jude. Il nous dit, Jude, versets 24 et 25, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. » Alors regardons ensemble. Est-ce que, à cette connexion qui est faite en Jude, le fait que Dieu puisse nous préserver de toute chute, que Dieu puisse nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, est le tout dans l'allégresse. Et que cela, ces choses, ces trois choses, nous donnent toutes les raisons suffisantes pour mettre en pratique ce verset 25, de donner vraiment gloire à Dieu. La gloire qui lui revient et qui lui revient à lui seul. Alors regardons cette première chose que Jude nous mentionne en verset 24. Lui seul peut nous préserver de toute chute. Ça devrait être encourageant et réconfortant de savoir cela. Ce Dieu si grand, si puissant, a la capacité et la volonté de nous préserver, pas de la grande majorité des chutes, pas des chutes les plus communes, mais de toutes chutes. Attention, il n'a pas dit qu'il ne permettra jamais qu'on trébuche. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il n'a pas dit qu'il sera impossible pour le chrétien de chuter ou de tomber. Parfois, je crois que Dieu sait très bien que de tomber, c'est peut-être la seule façon pour nous d'apprendre. Et donc, ultérieurement, d'avancer. Tout comme l'enfant, hein, le bébé qui apprend à marcher, l'enfant qui apprend à faire du vélo, l'enfant qui apprend à faire un peu de roller ou du patinage sur glace, On s'attend à ce que tomber fait partie du processus pour apprendre. Mais on n'est pas là pour l'attraper, l'empêcher de tomber. Et on n'est pas là pour le chouchouter une fois qu'il tombe, pour l'empêcher de se remettre debout et de recommencer. Et Dieu, parfois, il fait pareil. Dieu est capable de nous préserver de toute chute, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous permettre parfois de chuter parce que c'est pour notre bien. Il y a deux choses différentes dans cette déclaration. Dieu est capable de nous préserver de toute chute. Il n'y a pas de situation dans laquelle on peut se trouver où Dieu n'est pas assez puissant, où Dieu n'est pas assez intelligent ou sage pour savoir et pouvoir nous aider et nous protéger. Donc, si effectivement j'ai chuté, ce n'est pas la faute de Dieu et ce n'est pas une chute où Dieu n'est pas capable de m'aider à me relever non plus. Il est même possible que c'était préférable qu'on chute à ce moment-là pour ne pas chuter dans un domaine bien plus important, bien plus grave, plus tard. Un peu comme Fanny Crosby qui disait qu'elle ne changerait pas le fait d'avoir vécu sa vie en tant qu'aveugle, même si elle le pouvait, parce qu'elle peut voir comment Dieu a utilisé cela en bien et même en mieux pour elle, et qu'elle n'aurait pas la relation qu'elle a avec Dieu si Dieu lui avait permis d'avoir une vue comme tout le monde. Alors, dans quel domaine est-ce que Dieu nous aide à ne pas chuter plus précisément? Et pour laquelle nous avons donc des raisons de lui rendre gloire. J'en avais pensé à plusieurs, mais avec le temps, j'ai dû en enlever, j'en ai gardé que deux. Dieu peut nous préserver de chuter dans les erreurs doctrinales. Il nous faut comprendre que personne n'est à l'abri de chuter, soit dans une erreur doctrinale, ou dans le péché, ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas le chrétien, le moindre chrétien, ou comme la Bible dit, qui ne doit pas prendre garde de penser qu'il est debout pour ne pas chuter. Il dit, je me tiens sur la force de mes deux jambes, de la force de mes convictions, de ma connaissance. Il n'y a pas de chrétien qui est à l'abri de ne pas pouvoir chuter dans un domaine, et même dans celui de la compréhension de ce que la Bible déclare. Nous avons tous, absolument tous, sans exception, besoin que Dieu soit celui qui nous aide et nous préserve des chutes. Je ne peux pas comprendre et encore moins vivre selon les doctrines de Dieu sans que ce soit Dieu qui soit celui qui me les révèle et qui m'aide, me donne la force, la volonté, la capacité de vivre en accord avec ces mêmes doctrines. D'où la grande difficulté pour certains parents, n'est-ce pas? Parce que pour faire simple, on fait de notre mieux pour enseigner les vérités bibliques à nos enfants. Mais tant que nos enfants ne prennent pas à cœur ces mêmes vérités, les doctrines de la Bible ne vont pas avoir l'influence dans leur vie pour les aider que nous on aimerait voir. Et cet aspect-là, de les prendre à cœur personnellement, on comprend combien nous sommes limités. Nous le disons régulièrement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de l'homme. C'est également le Saint-Esprit qui révèle, qui explique et donne vie à la parole de Dieu. D'où la différence entre un chrétien qui lit la Bible et un inconverti qui lit la Bible. Ou encore un chrétien qui lit, mais sans amour, pour Dieu, qui lit plus par obligation, parce qu'il pense qu'il doit, et le chrétien qui lit parce qu'il a une vraie soif, parce qu'il a une communion proche avec le Seigneur, et il veut connaître, il veut obéir. Aucun chrétien n'est soutenu par ses propres forces. C'est toujours par la grâce de Dieu. La compréhension et l'obéissance des doctrines bibliques ne feront pas exception à cela. Dieu, j'en suis certain, n'a jamais voulu que la doctrine soit quelque chose qu'on obtient par nos propres forces, par notre propre compréhension, par notre propre intelligence, par notre propre effort personnel. Il est vrai que nous avons notre part de responsabilité. On doit faire l'effort de vouloir lire, on doit faire l'effort de vouloir écouter, de vouloir apprendre et surtout de vouloir laisser les doctrines nous changer. Rappelons-nous de quand on pense à cela, des vérités telles que 1 Corinthiens 13, verset 2, où il dit « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Autrement dit, ça ne me sert à rien. La doctrine sans l'amour, ça devient la légalité. Ça devient une source d'arrogance et d'orgueil. La doctrine avec l'amour va toujours reconnaître la grâce de Dieu et notre dépendance pour lui, et notre incapacité de la comprendre sans son aide, et encore moins la vivre sans l'aide de Dieu. Sans lui, il faut comprendre et qu'on accepte, on est voué à chuter. Il est impossible que sans l'aide de Dieu, que je ne chute pas. Certains tomberont plus rapidement, plus tôt que d'autres, mais ne nous trompons pas nous-mêmes, sans l'aide de Dieu pour nous préserver, nous chuterons. Et ceci n'est pas seulement vrai en ce qui concerne les doctrines et les vérités bibliques en elles-mêmes, mais ça va de soi que c'est également vrai par rapport aux péchés. Aussi bien les péchés du cœur, des pensées, que les péchés visibles. Croyez-vous vraiment que vous pouvez rester éloigné du péché par la force de votre persuasion personnelle? Peut-être pour un temps très court, oui, mais dans la durée, quotidiennement, régulièrement. Si je crois réellement que Dieu seul est celui qui peut me préserver de chuter dans le péché, ben, il serait normal que je lui sois soumis. Il est normal que je lui parle constamment. D'où cette vérité de prier sans cesse, n'est-ce pas? Je suis sans cesse en train de demander son aide, mais également d'accepter son aide, de vouloir lui plaire au lieu de satisfaire les désirs de ma chair. Il serait également normal que je ne prenne pas la moindre décision sans considérer sa volonté à lui. Que je sois entièrement, complètement et toujours, constamment dépendant de lui. Je suis sauvé de mon péché par la grâce de Dieu, et Dieu, dans sa grâce, m'aidera à rester éloigné du péché. C'est Dieu qui peut me préserver de toute chute. Parfois, ou chaque fois que je chute, que je tombe de nouveau dans un péché ou un autre, c'est toujours, toujours, parce que quoi? Parce que j'ai refusé l'aide que Dieu me donne? Parce que j'ai refusé de me soumettre à sa volonté? Parce que j'ai agi avec ma force, ma chair, ma volonté? Et la liste peut continuer. Mais Dieu et Dieu seul peut m'aider, me préserver de toute chute, y compris celui de tomber dans le péché jour après jour. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute. C'est pas juste une phrase pour remplir un verset qui nous met là. C'est le début de l'une des trois raisons de pourquoi on a toutes les raisons de lui donner honneur et gloire. À celui qui peut nous préserver de toute chute. C'est une affirmation que Dieu nous donne. Mais cette affirmation ne sert à rien si on ne la croit pas pour être vraie. Si on fait le choix de ne pas y placer notre foi, de croire qu'effectivement que Dieu est capable de me préserver moi, je ne parle pas de préserver l'Église, de préserver les chrétiens, mais moi, ma personne, ma vie, avec mes défauts, avec mes faiblesses, avec mes problèmes, que Dieu est capable, moi, de me préserver de toute chute, de tout péché aujourd'hui. Si je ne le crois pas vraiment, à quoi bon? À quoi cela sert de connaître cette vérité? Dieu peut nous préserver de toute chute. Ce n'est pas comment Dieu va s'y prendre qui est important, vous savez. C'est le fait que Dieu fera toujours ce qui est meilleur pour nous qui est important. Parfois, Dieu empêchera un certain problème de venir, ou il pourvoira un certain besoin pour nous encourager et nous empêcher de chuter. Mais parfois, comprenez bien, Dieu fera venir une difficulté et un problème exprès. Et on se focalise tellement sur le problème qu'on ne réalise même pas que Dieu l'a permis pour nous aider à ne pas chuter dans un autre domaine de notre vie plus importante. Permettez-moi de vous donner une illustration. C'est un peintre renommé à l'époque qui était en train de peindre le plafond de l'église Saint-Paul. Et comme on peut l'imaginer, il était en haut d'un très grand échafaudage. Et pour mieux saisir l'ensemble de son œuvre, ben, il recule de quelques pas hein, pour mieux saisir. Et son ami, qui je ne sais pas si c'était un ami apprenti, le voyant s'approcher dangereusement du bord, ben, il prit rapidement le pinceau qu'il avait déjà en main. Il fait une grosse rayure dans sa fresque. Grosse rayure sur la peinture. Le peintre, ben, par réflexe, ben, il arrête de regarder l'ensemble et il va vers l'avant pour corriger ce qu'il pensait être son ami et apprenti en train de défigurer sa peinture et en colère contre lui. Alors qu'en fait, son ami lui a peut-être sauvé la vie. Ce peintre, il s'appelle James Thornhill, il ne comprenait pas pourquoi l'autre a fait ça. Ça n'avait aucun sens, ce n'était pas logique. Pourquoi est-ce qu'il mettrait un coup de peinture comme ça, une rayure, grosse rayure comme cela sur sa peinture? Ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas logique. Seulement après, peut-être qu'il aurait pu expliquer, écoute, voilà pourquoi je l'ai fait. Je savais que si j'appelais ton nom, ça ne t'aurait peut-être pas arrêté sur tes pas. Tu aurais peut-être encore fait un pas en arrière, ça aurait été le pas de trop. Il fallait avoir une réaction qui te pousse à aller vers l'avant, coûte que coûte. Même s'il doit te mettre en colère contre moi pendant un instant. Mais Dieu fait souvent parfois la même chose avec nous. Il permet à ce qu'on passe par un moment désagréable, même pénible, où on souffre, on a une vraie peine. Et ça n'a aucun sens à nos yeux, ce n'est pas logique à notre entendement. Mais Dieu n'est pas obligé de nous expliquer, je fais cela parce que j'étais préservé de quelque chose de bien pire. Mais ce que tu dois te rappeler, c'est que je veux te préserver de toute chute et que je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ça n'est pas logique à tes yeux, mais ne fais pas en sorte à ce que ce ne soit pas logique à tes yeux, t'empêcher de savoir que je t'aime et je veux toujours ton bien. Ne laisse pas cela placer le doute sur qui je suis. Je suis Dieu. Je sais des choses que tu ne sais pas. Et je t'aime. Dieu est amour. Ce n'est jamais un doute de mettre en doute la parole, la sagesse ou la personne de Dieu. Dieu nous veut toujours du bien, même quand on passe par des moments de souffrance, des moments pénibles, des moments qui font mal. Ce n'est pas parce que on a cette douleur qu'on doit remettre en doute qui est Dieu. Et non seulement est-ce que Dieu et Dieu seul peut nous préserver de toute chute, mais également, ce passage nous dit que lui seul peut nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Après tout, nous savons qu'il ne se retrouvera au ciel que des personnes irrépréhensibles, n'est-ce pas? Il n'y aura que des personnes au ciel qui sont sans tâche, sans faute, sans péché. Croyons-nous vraiment que cela serait possible si ça dépendait de nous? Ce mot irrépréhensible, c'est là où j'avais confondu tout à l'heure pour gloire, c'est parce que le mot gloire, c'est le mot doxo, mais c'est là où je le trouve le mot amour, ce qui veut dire sans faute, impossible à blâmer, irréprochable, pur. Et j'aime dans cette série de définitions, j'ai gardé celui-là, impossible à blâmer. Alors pensez un instant à cette vérité, que Dieu nous a rendus irrépréhensibles, sans faute, qu'on ne peut plus être blâmé pour nos péchés, grâce au salut que nous avons en Jésus-Christ. Le moment même que vous avez accepté le salut de Dieu, le sang de Christ a effacé, la Bible dit, tous vos péchés. Peu importe votre passé, peu importe votre péché, peu importe le nombre de péchés, il n'y a absolument aucune limite, tout a été effacé. 1 Corinthiens 6, 11 nous dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Est-ce que vous pouvez vous rappeler de comment vous viviez avant votre salut? Tous ces péchés ne devraient plus avoir la moindre influence sur vous. Ne devrait plus vous faire sentir mal à l'aise ou vous traîner vers le bas. Tous ces péchés ont été effacés, lavés par le sang de Christ. Vous avez été purifiés, justifiés, rendus justes, coupables que vous étiez à cause du sacrifice de Christ sur la croix. Pas à cause de vous, pas à cause de vos œuvres, même pas à cause de votre foi. À cause du sang de Christ. Le péché en lui-même n'a maintenant plus le même pouvoir sur vous. Le péché n'a plus la même emprise ou influence qu'avant. Oui, on sait que le péché est toujours présent, n'est-ce pas? Notre nature pécheresse est toujours présente, n'est-ce pas? Mais vous avez maintenant un moyen et surtout une raison de le combattre que vous n'aviez pas avant. Et surtout, vous avez maintenant un moyen de le vaincre que vous n'aviez pas avant. Christ est devenu péché pour nous, pour que nous puissions justement nous présenter devant Dieu, comment? Pur, lavé, irréprochable. Si cela ne donne pas envie de donner gloire à Dieu, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. c'est que quelque chose ne va pas. Et non seulement est-ce que Dieu et Dieu seul peut nous préserver de toute chute, Dieu et Dieu seul peut nous présenter devant sa gloire irrépréhensible, et j'aurais voulu rester sur ce point-là, mais on n'a pas le temps. Je veux également quand même parler de sur ce point-là où, parce qu'il le rajoute, il ne le rajoute pas, encore une fois, juste pour remplir la phrase, que lui seul peut nous donner la vraie joie. Quand il rappelle dans l'allégresse, ce n'est pas une allégresse, une joie qui n'est réservée que pour une fois qu'on est arrivé au ciel. C'est quelque chose que Dieu veut que nous apprenions à connaître dès aujourd'hui. Si nous voulons nous présenter devant Dieu, devant sa gloire, étant irrépréhensible et dans l'allégresse, on doit se soumettre à sa volonté avec joie aujourd'hui. Après tout, comment pouvons-nous penser à ce qu'on vient de dire, que malgré tous nos péchés, malgré notre vie de péché, que nous sommes lavés par le sang de Christ, sauvés pour toute l'éternité, coupables, indéniables que nous étions, que nous sommes promis d'être acceptés auprès de Dieu le Père. Pas seulement acceptés, mais qu'il a fait de nous ses enfants. Comment ne pas nous réjouir de cela? Comment ne pas être heureux de savoir que nous ne sommes plus sous la condamnation du péché? Comment ne pas être heureux de ne plus être sous l'emprise du péché? Que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous sommes allés à être son esclave, à être aujourd'hui un enfant de Dieu, rendu juste par le sang de Christ. Oui, nous faisons face à des difficultés, n'est-ce pas? Et oui, nous faisons face à des peines, il y a des souffrances. Les disciples, on peut le voir à travers leur propre vie. Ils n'ont pas été épargnés de ces choses. Pourquoi pensons-nous que nous devrions être épargnés de ces choses, nous, aujourd'hui? Mais est-il possible de faire face à une souffrance plus grande que la joie, qu'apporte la joie de savoir que nous sommes sauvés pour l'éternité? Comment puis-je prétendre que je vais me tenir devant Dieu, irrépréhensible et dans l'allégresse, tout en vivant aujourd'hui dans l'amertume et le doute? Ce mot allégresse parle d'être joyeux, d'avoir de la joie, oui, mais ce mot spécifiquement parle d'avoir une joie débordante ou d'avoir, parfois c'est traduit par un excès de joie. Vous savez ce qui se passe quand une personne a un excès de joie, une joie débordante? Ben, il ne peut pas s'empêcher d'en parler. On peut faire l'exemple, la comparaison avec un couple qui attend son premier enfant, ou quand une fille vient d'être demandée en mariage, va-t-elle garder cette nouvelle pour elle et ne pas en parler à qui que ce soit? Ou non, elle va le dire à sa famille et à tous ses amis, et ses amis vont lui poser plein de questions. Comment est-ce qu'il a fait la demande? C'était où? Ça s'est passé comment? Et avec chaque question, on ne voit pas la fille être embêtée par ces questions, mais on voit ses yeux scintiller à pouvoir répondre. Voici comment ça s'est passé, etc., etc. Parce qu'elle a une joie, un excès de joie, et elle veut le partager. D'ailleurs, si elle était obligée de le garder en elle, bah, ça lui ferait de la peine, ce serait dur, ce serait triste. Et c'est ce mot « allégresse » veut dire que Dieu nous donne cet excès de joie qui devrait être impossible à vouloir garder en nous. C'est une joie débordante, tout comme nous devrions avoir quand on pense au fait que Dieu et Dieu seul peut nous préserver de toute chute. Et que Dieu seul peut me présenter devant sa gloire, irrépréhensible, irréprochable, impossible à blâmer. Cette joie devrait nous pousser à le louer, le glorifier, à l'honorer. Mais cette joie débordante devrait également être une joie contagieuse. Ce n'est pas notre pessimisme qui devrait être contagieux. Ce n'est pas notre crainte qui devrait être contagieuse. C'est notre joie en tant qu'enfant de Dieu qui devrait être contagieuse. Notre joie qui découle de notre foi en Dieu et de notre amour pour Dieu. Une mère et un père ne pourront jamais enseigner de meilleures ou de plus grandes leçons à leurs enfants, avoir une plus grande influence sur la vie de leurs enfants que celui-ci. De leur dire, de leur montrer, de placer sa foi en Dieu, de lui faire confiance, n'est pas juste un principe biblique. Mais pourront leur dire et leur montrer par leur vie que nous faisons confiance en Dieu, et cette foi procure une joie qui dépasse de loin toutes les difficultés du moment présent. Et que les enfants puissent avoir connaissance des difficultés par lesquelles les parents passent, et voir cet amour et cette joie ne pas changer juste parce que les circonstances ont changé. Nous enseignons énormément de choses à nos enfants par nos paroles. C'est un fait. Mais notre exemple, la façon qu'on s'en conduit et la joie ou la crainte qui remplit notre cœur aura une bien plus grande influence sur la vie de nos enfants que nos paroles. Il n'y a pas d'enfant qui aime avoir des parents qui disent « faites comme je dis et non comme je fais ». Je ne peux pas vivre dans l'allégresse et vivre dans la crainte en même temps. Je ne peux pas avoir une joie débordante, un excès de joie et être rempli de crainte en même temps. Je ne peux pas vivre avec une joie débordante et d'avoir le doute qui m'assaille jour après jour non plus. Je ne peux pas vivre avec un excès de joie dans mon cœur et vivre sans mettre la volonté de Dieu en premier dans ma vie non, en même temps. Le tout est lié. La joie que procure ma foi en Dieu devrait être contagieuse. Et les premières personnes qui devraient être affectées par cette contagion, c'est mes enfants, ma famille. Et ensuite, on part de là. Pas mes craintes. Je veux que mes enfants connaissent cette joie. Je veux que mes enfants connaissent cette allégresse. Alors je me dois de faire bien plus que d'en parler. Je dois vivre jour après jour avec cette joie dans mon cœur. Il nous est facile de nous réjouir quand Dieu nous donne ce qu'on demande, n'est-ce pas? Mais est-ce que, comme on l'a déjà entendu ce matin à travers les différents témoignages, est-ce qu'on peut se réjouir quand Dieu nous enlève la vue, quand Dieu nous enlève toute mobilité, alors on ne peut pas bouger nos bras et nos jambes, ou est-ce qu'on peut continuer à se réjouir quand on n'a même pas de bras ou de jambes? Et vous serez peut-être surpris de voir votre joie être bien plus grande, bien plus riche quand vous faites le choix de louer, de glorifier Dieu à travers les difficultés. Je n'ai pas dit une fois la difficulté passée, j'ai dit à travers la difficulté. Pendant, le plus que je grandis personnellement, le plus que je comprends mieux comment Dieu a utilisé les moments difficiles de ma vie pour m'aider à grandir. Même si ces moments étaient effectivement très difficiles, étaient douloureuses et ont produit de la peine, s'il m'était possible de revenir en arrière et les empêcher, je ne le voudrais pas. La seule chose que je changerais n'est pas la difficulté, mais plutôt la façon que j'y ai réagi. Pour que j'apprenne la leçon plus rapidement, mieux, pour que j'aie une meilleure influence sur les autres, pour que j'enlève cette partie où je n'avais pas la joie, que j'avais de la crainte, ou que j'avais des doutes, ou que j'étais rempli d'orgueil ou de fierté, ou j'étais égoïste, et que je puisse enlever ces choses-là et apprendre la leçon, mais pas d'enlever la difficulté elle-même. Parce que la difficulté était là, était nécessaire pour que je grandisse, pour que j'apprenne. Comme on avait dit au tout début, ça fait partie du processus que je tombe pour que je puisse me relever et continuer. Un Pierre, chapitre 4, verset 12, nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas étonnés que vous êtes en train d'être persécutés. » Le verset suivant, les deux premiers mots, « Réjouissez-vous. » Ce n'est pas « Ayez foi », ce n'est pas « Prenez courage », ce n'est pas « Ayez la force », première chose qu'il dit, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que, voici pourquoi vous devez vous réjouir par rapport à ces souffrances, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ce sont des versets qui sont bien étranges pour beaucoup de chrétiens, mais pas pour les chrétiens qui ont une marche très proche avec leur Seigneur. Si on n'accepte pas les difficultés que Dieu permet dans notre vie, c'est qu'on n'a pas encore compris la joie que Dieu nous donne à travers ces difficultés. La joie, l'allégresse que Dieu nous donne n'est pas liée aux circonstances de la vie, elle est directement liée à ma communion avec Dieu. Pour que peu importe les circonstances que Dieu permet dans ma vie, ma communion sera plus forte et ma joie, mon allégresse, cette joie débordante, cet excès de joie ne changera pas en conséquence des circonstances. Si je refuse les difficultés, Je suis en train de refuser la croissance qui vient avec. Dieu seul peut nous aider à garder notre joie au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Mes problèmes, mes émotions et même mes douleurs et mes peines ne peuvent pas changer le fait que je suis sauvé par grâce. Que mes péchés sont effacés et que j'ai la promesse de pouvoir me tenir devant Dieu irréprochable. Quelle joie ! Rien de ce que je puisse passer aujourd'hui, aucune circonstance que je puisse vivre, ne peut enlever la joie de mon salut. Les souffrances du moment présent ne peuvent pas enlever la promesse à venir et donc enlever la joie du moment présent. Vous connaissez, j'imagine, Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ah, ça c'est bien pour Paul, c'est bien pour tous. Alors pour conclure, parce que on est resté à ce verset 24 de Jude, on a décortiqué ces trois phrases, ces trois parties de cette phrase, mais le verset 25 c'est la conclusion. C'est ce que ça devrait, le résultat logique que ça devrait produire. Il nous dit à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Soit gloire, soit majesté, soit force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, peu importe ce par quoi on passe, et dans tous les siècles, peu importe ce que ces siècles nous réservent. Ceci devrait être le résultat logique de ce qu'on vient de parler. Parce que Dieu et Dieu seul est celui qui puisse nous préserver de toute chute. Parce que Dieu est le seul qui puisse faire en sorte qu'on se présente devant lui, irrépréhensible, irréprochable. Et parce que Dieu est le seul qui puisse nous apporter la vraie joie, une joie débordante et contagieuse, aussi bien ici-bas qu'au ciel, ben alors il est logique qu'à Dieu et à Dieu seul soit la gloire, la majesté, à lui seul la force, à lui seul la puissance. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand Dieu va enfin régner sur terre, mais avant même qu'il envoie Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés. Il méritait déjà la louange et la gloire, dès avant tous les temps. Peu importe le temps passé, les expériences vécues, toujours aujourd'hui et maintenant. Dieu et Dieu seul méritent la louange, la gloire et l'honneur. Et dans tous les siècles, et pour tous les siècles, sans fin, pour toute l'éternité, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons rendre gloire à Dieu. Alors autant commencer à nous entraîner maintenant. Termine avec le dernier verset, avant-dernier verset en Romains 14, verset 11. Car il est écrit... Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ceux qui ne veulent pas le faire aujourd'hui, le feront à ce moment-là. Alors commençons déjà aujourd'hui. Que notre joie et notre louange soient contagieuses, surtout envers nos enfants, surtout envers nous. On peut passer par un moment difficile, on peut passer par des moments où ça pourrait apporter tristesse, mais quand on voit notre frère ou sœur avoir cette joie débordante, excessive, ça peut nous rappeler, moi aussi, j'ai encore de quoi me réjouir. Ce qui est important, ce qui compte vraiment dans la durée, dans l'éternité, Dieu me l'a déjà acquis. Je peux me réjouir. Comme il nous le dit en 1 Timothée 1, 17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions s'il vous plaît.